Aujourd'hui, nous allons traiter plutôt Jésus-Christ, en quoi est-ce que c'est à la fois vrai homme et vrai Dieu, en quoi on pourrait dire que c'est un homme-Dieu. Voilà, d'accord. Donc là, c'est un sujet plus sur le... Et pareil, je t'enverrai le cours dans la suite. D'accord. Alors, on pourrait dire pourquoi est-ce qu'on se pose tant de questions sur la nature du Christ ? Parce qu'en fait, il suffirait de se dire, il est sauveur, donc voilà, on n'a pas besoin de tant réfléchir, on le prend comme il est, et voilà. Et en fait, les contemporains eux-mêmes de Jésus-Christ sont posés des questions. Quel est celui-ci que même les vents et la mer lui obéissent ? Ça, c'est en Matthieu 8, 27. Mais Jésus lui-même, il a demandé à ses disciples, « Pour vous, qui suis-je ?» Et donc, c'est une vraie question qui a un vrai sens. Et l'idée, ce n'est pas de le traiter d'un point de vue, on pourrait dire, c'est conceptuel, philosophique, etc. Mais non, la Bible, elle nous présente une expérience, elle nous présente une personne. Et donc, il faut qu'on réfléchisse à ce qu'est le Christ. Pour pouvoir le connaître, il faut aussi qu'on réfléchisse à qui il est, en fait, et comment est sa nature. Comment il peut être à la fois vrai homme et vrai Dieu, en fait. Donc, on va... Et toute cette réflexion sur qui est Jésus-Christ, en fait, l'idée, c'est de nous donner Jésus dans toute sa plénitude. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, du coup, c'est qu'un homme. Et du coup, en rester là, finalement, avec un homme un peu extraordinaire. Mm-hmm. On pourrait dire, non, c'est Dieu, et finalement, l'homme... nous intéresse pas et c'est Dieu qui nous intéresse. Eh ben non. En fait, il y a vraiment cette imbrication entre l'humanité et la divinité, et que cette existence de Jésus-Christ, qui peut paraître toute simple, finalement, il a une vie à part sa mort qui est quand même un peu. Bon, enfin, bon, en même temps, voilà, il a vécu à Nazareth, il a une maman, il a enseigné, il a voilà. Enfin, il y a pas. C'est pas une vie extraordinaire. Et en même temps, elle est innervée, enfin, elle est complètement reconfigurée par cette divinité qui lui donne toute son ampleur et qui finalement nous font poser le bon regard, le regard qu'il faut sur sa vie et son existence. Voilà. Et on voit que dans les premiers siècles, et ça va être la première partie, il y a eu beaucoup d'hérésies parce qu'en fait, c'est tellement compliqué d'imaginer un Jésus-Christ vrai homme et vrai Dieu. Comment c'est possible qu'il y ait à la fois cette imbrication, qu'il soit vraiment homme? Alors qu'il est vraiment Dieu, comment c'est fait? Donc on va d'abord commencer à travailler sur en quoi est-ce qu'il est vraiment homme. Alors c'est vrai que pour les contemporains de Jésus, ceux qui ont les apôtres, nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection, mm-hmm. ils voient bien que c'est un homme. Enfin, il y a une réalité, il y a une tangibilité, ils l'ont touché, enfin Thomas qui essaye de le toucher. Voilà. Ensuite, après, ça a été quand même un peu plus compliqué dès qu'on n'avait plus la relation directe avec Jésus. En fait, il y a beaucoup de gens croyants qui se sont dit « Non, mais c'est la souffrance et la mort de Jésus, comment c'est possible ? C'est insupportable avec l'idée que ça puisse être un Dieu. » Et donc, il y a quelque chose qui vous l'idée qu'en fait, le Christ n'aurait pas vraiment été un homme, qu'il aurait fait semblant, quoi, quelque part, voilà. Et cette idée de faire semblant, c'est le docétisme. Du coup, c'est cette idée de c'est pas possible qu'il ait vraiment assumé cette humanité jusqu'à souffrir et à mourir sur la croix. Un deuxième chose qui n'était pas très claire, c'était l'idée que est-ce qu'il peut avoir une âme humaine ? Enfin, comment est-ce qu'il peut avoir une âme humaine, une intelligence humaine, aimer comme un homme alors qu'il est Dieu ? Comment c'est possible qu'il y ait ça ? Et donc ça, c'était aussi très compliqué de se dire finalement, il y a un corps. Mais tout le reste, l'intelligence, l'âme et tout ça, en fait, elle est divine, elle n'est pas humaine. Voilà. Or, en fait, ce que nous dit l'Église et ce qu'a voulu proclamer, et ce qu'on croit dans le credo et comment Jésus s'est présenté, c'est qu'il y a une vraie réalité humaine. C'est-à-dire qu'il a pris toute notre humanité. Dans toute sa... Il a assumé toute la chair, il a assumé le fait de même apprendre à prier, par exemple, voilà, sur les genoux de Marie. Quoi. Enfin, donc, il y a quelque chose, il connaissait pas tout. Donc, il y a cette idée de progression. Dans la lettre de Saint Jean, la deuxième, il dit « Beaucoup d'imposteurs se sont répandus dans le monde. Ils refusent de proclamer que Jésus-Christ est venu dans la chair. Celui qui agit ainsi est l'imposteur et l'antichrist. » Donc vraiment, si on nie la vraie humanité de Jésus, finalement, on ne reconnaît pas qui est Jésus et on ne voit pas tout l'amour de Dieu dans cette incarnation. Voilà. Donc c'est vraiment clair. Et pour que Dieu puisse vraiment se donner dans cette humanité, il faut qu'il se donne complètement en tant que Dieu, donc en sa divinité. Et en même temps, il respecte complètement l'humanité qui est là. Et donc c'est une vraie figure et c'est un Christ qui est vraiment Dieu et vraiment homme. Donc ça, c'est pour la pleine humanité. Après, c'était compliqué pour ceux qui disaient « Non, mais c'est pas un vrai Dieu. » Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Dieu le Père. Donc, on ne peut pas avoir... c'est plusieurs dieux. Enfin, tout ça, c'est compliqué. Puis un Dieu qui se fait homme, enfin. Le Dieu infini, etc. Comment c'est possible ? Voilà. Donc il y a une sorte de c'est pas possible. Donc on dit bon, donc c'est pas un vrai Dieu, il peut pas aller se salir avec l'humanité. Et donc en fait dans cette hypothèse, on dit que c'est le fils de Dieu mais qui est pas vraiment Dieu. Donc il est un peu il est entre les anges et Dieu quelque part, enfin entre les hommes et Dieu. Donc ça c'est l'arianisme hein, qui a quand même été une très forte discussion. Toute une partie de l'Afrique était très arienne et vraiment d'où le concile de Nicée. Donc il y a eu plusieurs conciles, je donnerai aussi la liste des conciles. Et le concile de Nicée, en fait, c'est celui qui affirme que Jésus-Christ est... Alors on dit dans le concile de Nicée, c'est quand on dit le credo de Nicée, tu vois, on dit qu'il est Jésus-Christ et consubstantiel au Père, en latin. Alors, en fait, on devrait dire plutôt que de la même substance, parce que ça voudrait dire comme s'il y avait plusieurs... Tu vois, on est toutes les deux de la substance humaine, quelque part. Donc, voilà, en Dieu, c'est pas pareil. Donc, on devrait dire même de l'essence même de Dieu. Donc, ça veut dire que c'est comme si... voilà, c'est la même essence, quoi. C'est la même essence au sens être. Voilà. Oui ?
Excusez-moi.
Oui ? Et donc, du coup, il y a et donc le concile de Nicée, il dit voilà, c'est vraiment consubstantiel au Père, donc de l'essence même du Père. Et donc quelque part, dans chaque personne divine, donc en Jésus-Christ aussi, on a la totalité de la divinité. Donc c'est pas la divinité découpée en trois, et puis Jésus-Christ il en a une part. Non, c'est quand il y a Jésus-Christ, il y a la totalité de la divinité qui est là. Voilà. Donc on n'a pas plusieurs spécimens de l'humain, donc on n'est pas comme nous les hommes, on a plusieurs spécimens de nature humaine. Non, là il y a une seule essence Dieu et il y a Jésus est pleinement Dieu. Voilà.
Mais qu'est-ce qu'on doit poser comme si quelqu'un nous pose la question pour si c'est vraiment Dieu Jésus, pourquoi il est homme, il est comme nous. Qu'est-ce qu'on doit répondre à ça?
Alors en fait, il y a plusieurs choses. Alors il y a le terme par exemple engendré qu'on utilise. Après, je te répondrai un petit peu plus sur du texte. Le mot engendré, c'est l'idée de dire que il n'est pas créé. Voilà, parce qu'il y a cette idée de voilà. Donc il y a une autre forme de d'engendrement. Donc il y a une autre forme de naissance, enfin on peut dire de Jésus dans sa divinité, qui permet de dire qu'il y a une seule réalité, qui finalement c'est un don. En fait, c'est comme si tout, le Père donnait tout au Fils, qui reçoit tout du Père, et c'est comme ça qu'il peut être vraiment Dieu, en fait, c'est qu'il lui donne tout. Voilà. Donc c'est cette dépendance, parce qu'on pourrait dire bah, Dieu il ne peut pas dépendre de quelqu'un, donc comment Jésus-Christ qui est dépendant du Père, enfin, comment il peut être dépendant alors qu'il est Dieu, c'est pas possible. Et parce qu'en fait, on a une idée de dépendance qui est dans la création, on est dépendant au sens où on n'est pas notre propre source. Donc le Fils non plus, il n'est pas sa propre source puisqu'il reçoit tout du Père, sauf le fait d'être source justement. Oui. Mais par contre, comme il reçoit tout, c'est une dépendance qui est comment dire assumée, enfin qui est complètement donnée quoi, et reçue et donnée. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a le Saint-Esprit. Donc on n'est pas dans une dépendance qui crée un lien de dépendance, mm-hmm. mais on est dans une dépendance de l'amour et donc une dépendance qui finalement qui redonne tout et donc il n'y a pas de, c'est pas une dépendance qui en amoindrit la liberté. Voilà. Quand on répond le côté vrai Dieu, d'abord Jésus l'a affirmé dans plusieurs textes d'évangile où il dit le Fils de Dieu, où il dit qu'il est venu du Père, qui me voit voit le Père. Voilà, donc ça peut pas être une créature juste humaine qui donne à voir la divinité. Donc il y a beaucoup de choses sur l'intimité aussi dans Saint Jean, beaucoup de textes de Saint Jean de 15, 14, enfin tous ces chapitres là où Jésus se parle d'une... Le Père et moi, nous sommes un. Même nous, quand on dit on va être un avec Dieu, tu vois, on le dit en analogie, on ne dit pas en vrai, c'est pas un au sens vraiment un. Voilà, il y a aussi la phrase « Avant que tu me vois, je suis ». Donc, il y a la référence au tétragramme de quand Abraham, dans le buisson ardent, parlait de Jésus. Donc, voilà, donc il y a plusieurs références. Il s'est jamais présenté, mais voilà, il transparaît quand même sa intimité avec le Père. Elle est vécue et elle est assumée, elle est dite. Et ça, c'est le signe qu'il est vraiment Dieu, voilà.
Alors, s'il est vraiment Dieu, comme vous dites, comme tu dis, tu te souviens, pourquoi à la fin, quand il a été crucifié, pourquoi il dit Père, tu m'as abandonné.
Alors, ben ça, on y viendra tout à l'heure, parce que justement, c'est un des passages que je vais commenter sur non pas ma volonté, mais la tienne et toutes ces choses-là. Ouais. Donc ça, on y viendra tout à l'heure. Donc là, on continue sur les conciles. Donc ensuite, il y a eu le concile de Chalcédoine en 451. Donc on est vraiment dans les premiers siècles de l'Église. Hein. C'est, ça fait que 400 ans. Et là, donc c'est un très beau texte d'ailleurs. C'est très intéressant de lire ce texte. C'est « Nous confessons un seul et même Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, le même parfait en divinité et le même parfait en humanité. » Donc il y a cette idée de perfection à la fois en tant qu'être divin, mais aussi en tant qu'être humain. Le même vrai Dieu, vraiment Dieu et vraiment homme, composé d'une âme raisonnable et d'un corps, consubstantiel au Père selon la divinité, donc c'est de l'essence même du Père, et le même consubstantiel à nous selon l'humanité, donc il est aussi un homme reconnu homme à son aspect, comme nous dit l'hymne aux Philippiens, en tout semblable à nous sauf le péché, on travaillera un petit peu tout à l'heure dessus aussi, avant les siècles engendré du Père selon la divinité, et au dernier jour, le même engendré pour nous et notre salut de la Vierge Marie, Mère de Dieu selon l'humanité. Donc on a un seul et même Christ, Fils, Seigneur, l'unique engendré, reconnu en deux natures, la nature divine et la nature humaine, sans confusion, donc c'est pas une sorte de on fait un mélange et puis voilà, sans changement, c'est-à-dire que c'est pas le moment où Jésus a été incarné n'a pas changé la nature divine de Jésus, du Verbe, de la deuxième personne de la Trinité, sans division, donc on n'a pas, c'est pas une schizophrénie quoi, c'est une seule personne, et sans séparation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment donné où il agit comme un homme, un moment donné où il agit comme un Dieu. Donc c'est vraiment important toutes ces notions là, et c'est très voilà, c'est très nourrissant je trouve de contempler Jésus comme ça. Et donc la différence des natures, ce qu'on pourrait dire, c'est pas du tout le même niveau en fait, n'est nullement supprimée à cause de l'union. En fait, la propriété de la nature humaine et la propriété de la nature divine sont plutôt gardées et concourent à une seule même personne. Donc en fait, le Christ est un modèle unique. C'est pas à la fois un homme et à la fois un Dieu en disant bah il a pris un peu des deux et donc voilà on a un assemblage. Non, pas du tout. C'est une personne unique. Parce qu'elle a vécu ces deux natures dans une seule même personne. Voilà. Et donc, il n'y a pas le Christ qui est divisé avec, de temps en temps, il est en tant qu'humain, puis de temps en temps, il est fils. Enfin, non, c'est une seule personne, quoi. Sinon, ce serait odieux. Voilà. Donc, un seul et même fils, unique engendré, Dieu Verbe, Seigneur Jésus-Christ. Donc, ça, c'est très important parce que ça nous dit cette idée d'unité. Et puis, on va la creuser à travers différents aspects, oui. Notamment sur la croix. Voilà. Donc, en fait.
Par contre, il s'est fait homme, mais il ne pêche pas, lui.
Voilà, alors après on va creuser ce point-là, effectivement. Donc on a les deux natures qui sont donc qui sont ensemble et assumées en Jésus-Christ. Donc il est à la fois à tout moment homme et Dieu. C'est un même sujet qui agit, donc il n'y a pas c'est un seul sujet qui agit, donc on a une seule personne dans ces deux natures. Et on n'a pas non plus un homme qui préexisterait, puis à un moment donné, il serait là, ce serait l'homme Jésus que Marie a enfanté. Non, il n'y a pas une sorte de préexistence, il est vraiment né à un instant T. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Il n'y a pas non plus juste juxtaposition. Et en fait, on a une vraie union en Jésus-Christ. Tout est humain et tout est divin. Et c'est pour ça qu'on peut parler d'ailleurs d'une perfection humaine. Ça va rejoindre sur la nature du péché. Voilà. Donc le propre de l'union, c'est que en fait, on n'a pas de dissolu. Enfin, elles se dissolvent pas. Enfin voilà. Quand on parle d'un couple et qu'on dit ils sont un, on garde quand même Monsieur et Madame. Voilà, il n'y a pas une sorte de nouvelle personne qui serait le un de Monsieur et Madame. Non, il y a les deux personnes restent vraiment deux personnes séparées et il y a cette union qui en fait qui fait quelque chose de ça. Voilà. Donc on a le Verbe qui est totalement engagé dans l'incarnation, dans la passion. Il n'a pas fait semblant, donc ça c'est important. Il a gardé la béatitude, c'est-à-dire qu'il est toujours quelque part en train de contempler le Père. Et on le voit quand il dit à un moment donné, il tombe en extase et il dit « Père, je te loue car tu l'as révélé aux petits, tu l'as caché aux sages et aux savants et tu l'as révélé aux tout-petits ». Donc il y a cette forme d'exultation, donc il est comme dans une béatitude. Et pourtant, ça ne remplace pas sa nature humaine, c'est-à-dire qu'il va apprendre et il ne voit pas tout, il n'est pas omniscient dans le même sens que Dieu. Ce n'est pas de cette nature-là. Voilà. Et alors, il y a une jolie phrase de Théodote d'Ancyre. « Il est resté Dieu de par sa nature. Il est devenu ce que tu es. » Il s'adresse à quelqu'un. « Par sa philanthropie pour nous, pour toi, donc parce qu'il t'aime, il est devenu ce que tu es. La nature divine n'a pas été outragée. » mais la grâce t'accorde ses bienfaits. Il a assumé ta condition parce que toi, tu avais abandonné sa condition. On a perdu cette image et cette ressemblance. Ma nonchalance fera-t-elle subir à Dieu la perte de sa plus belle possession, l'homme ? Donc, je trouve ça très beau de dire, bah, voilà, il y a quelque chose d'une perfection dans cette création qui est l'être humain et que Jésus, finalement, nous vient restaurer et vient... Donc, c'est très important de contempler cette humanité de Jésus qui est complètement imbriquée avec sa divinité. Alors, on va passer sur un sujet qui va nous faire aborder le péché, qui est pourquoi est-ce qu'il fallait un homme-Dieu pour nous sauver ? Donc on ne va pas se mettre à la place de Dieu, qu'est-ce qu'il aurait pu faire, etc. Ce n'est pas ça le sujet, mais se dire pourquoi est-ce que c'est éminemment consonant ou juste, harmonieux finalement, que ce soit un homme-Dieu qui vienne pour nous sauver. Donc c'était important qu'il y ait de la descendance d'Abraham et que ce ne soit pas un ange ou un autre être. Voilà. Dans l'épître aux Hébreux, donc c'est surtout cette épître-là qui dit, voilà, qui met en avant le fait que le Christ devait se faire homme, car ce n'est pas des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la descendance d'Abraham. Ainsi devait-il en tout point se faire semblable à ses frères, afin de devenir un grand prêtre miséricordieux en même temps qu'accrédité auprès de Dieu, pour effacer les péchés du peuple. Donc c'est l'idée qu'il est, comme il peut vraiment offrir les péchés et s'offrir en tant que pécheur, parce qu'il est de notre côté quelque part. Voilà. Et il est en même temps du côté de Dieu, et donc c'est entendable pour Dieu, pour le Père. Voilà. Et donc, c'est parce qu'il est ces deux côtés qu'on peut avoir un vrai salut, en fait. Voilà. L'incarnation apparaît donc comme la condition de possibilité de la rédemption. Voilà. Donc, on aurait pu... Une rédemption sans l'incarnation, bah, finalement, c'est pas complètement juste. Parce que, quelque part, quand Adam a péché, bah, c'est un homme qui a rompu avec Dieu, avec en Dieu. Voulant se séparer. Oui. Et donc, il faut quelque part qu'il y ait une... que ce soit un homme qui renoue ce lien. Voilà. Et donc, il est des deux côtés, c'est ça qui fait que ça peut faire. Et dans la mesure où le salut requiert la mort du Fils, allant jusqu'au bout de l'obéissance à son Père, il convenait que le Fils reçoive donc une humanité ouverte sur la mort, parce qu'on pourrait se dire, il aurait pu prendre notre humanité, mais pas la mort. Bah non, il est venu nous chercher jusque là-dedans, et donc il va jusqu'à la mort, et puis la souffrance aussi, qui fait partie de l'expérience humaine et de cette coupure avec Dieu, en fait. Voilà. Or c'est complètement contraire à Dieu de souffrir, enfin ça paraît complètement absurde, mais voilà, donc il l'a vraiment assumé, et c'est dans ça qu'il l'a vraiment assumé. Et là, dans le chemin de croix de Claudel, il y a l'idée, il n'a pas souffert seulement en peinture, voilà, il a vraiment souffert dans son humanité, dans sa chair, voilà. Et on parle souvent d'un échange, en fait le Verbe a pris de nous notre immortalité pour nous communiquer son immortalité. Donc il y a comme un il nous restaure dans la relation avec Dieu, et quelque part il nous redonne cette capacité à l'immortalité et la vie éternelle. Voilà. Donc en fait le Verbe, il a souffert en tant qu'homme sans rien renier de l'impassibilité divine. Donc il a souffert en tant qu'homme, elle est bien réelle, cette souffrance, mais elle est très différente de notre souffrance qui finalement ne mène pas souvent à grand chose, parce que lui, la souffrance, au lieu de l'enfermer sur lui-même, il l'ouvre à la communication avec toutes les autres créatures, parce qu'elle est offerte pour le salut du monde, et elle est offerte aussi à Dieu dans l'obéissance au Père. Voilà. Donc elle n'est pas seulement subie, elle est vraiment un don, et un don réel et absolu quelque part, enfin qui va jusqu'au bout. Voilà. Et donc si la souffrance est contraire à la nature divine, le choix de porter la souffrance ne l'est pas, et c'est parce qu'il a fait ce choix-là, Jésus en tant qu'homme-Dieu, qu'il a pu nous restaurer et nous sauver, en fait. Voilà. Donc quand on parle de la souffrance du Verbe, il faut faire attention, parce que c'est pas en tant que Verbe éternel, il souffre pas dans la Trinité, enfin, ça n'aurait pas de sens. C'est en tant qu'il y a ce mouvement d'aller jusqu'au bout de son don, et donc d'endurer dans son humanité un état douloureux. Voilà. Et donc il y a une vraie réalité de la souffrance, et en même temps qui n'est pas... Dieu n'est pas en train de souffrir tout le temps, quoi. Enfin voilà, ce serait pas juste.
Et pourquoi alors quand... On dit quand on ouvre les souffrances comme ça, on dit mettez tout au pied de la croix de Jésus, oui. Donnez ce fardeau à Jésus.
Bah parce que justement, lui, il sait ce que c'est que le donner, et plus on donne en Jésus, plus on a des chances de sublimer cette souffrance et finalement d'en faire quelque chose. C'est-à-dire qu'elle nous enferme, qu'elle nous rabaisse, qu'elle nous diminue, plus on l'offre, la souffrance, et c'est d'ailleurs la seule manière de la traverser, et c'est que dans le Christ qu'on peut le faire. Plus on l'offre, plus il y a des chances que, enfin, plus on pourra passer au-delà. Et quelque part, aller vers la résurrection. C'est un peu le mouvement des saints qui ont accepté de souffrir, par exemple, ou de, je sais pas, Saint-Maximilien Kolb, voilà, qui a donné sa vie en échange d'un père de famille. Voilà, mais par ce don-là, quelque part, je pense que il a pu passer cette souffrance de donner sa vie, et parce qu'il en a fait quelque chose, en fait. Et du coup, qu'elle était une souffrance offerte, elle nous grandit au lieu de nous, tu vois, de nous enfermer et nous rabaisser, en fait. Voilà. Très tôt, alors on a défini l'adage, ce qui n'aurait pas été assumé n'aurait pu être guéri. C'est Saint Grégoire de Nations qui dit ça. Et donc, en fait, il faut que le Christ, il ait tout assumé, parce que c'est seulement ce qu'il a assumé, finalement, qu'il a redonné à Dieu dans son obéissance, et du coup, qui va pouvoir être sauvé. Donc, en fait, il a pris les différents registres de l'expérience humaine, puisque c'est ça qu'il va offrir au Père. Donc, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Quelque part, ils nous englobent tous là-dedans. Et donc, on montre que toute l'humanité de l'homme, finalement, elle se trouve résumée dans le Christ. Alors, on est bien d'accord que c'est un vrai homme, un homme individuel. Donc, il n'a pas, c'est pas l'humanité au sens, une sorte de générique, de, je sais pas, d'ectoplasme, de l'humanité, l'être humain, je sais pas quoi. Non, c'est un vrai homme qui est dans sa vraie spécificité. Enfin, voilà, c'est pas tout le monde. Par contre, de son point de vue d'homme, en fait, en l'assumant complètement d'être homme, en fait, il nous embarque tous. C'est-à-dire, oui, on pourrait se dire, bah, c'est parce qu'il est, il aurait dû être homme et femme, il aurait dû être vieux et jeune, il aurait dû être en Israël juif et puis un païen. Eh bien non, en fait, ce n'est pas comme ça qu'on assume toute l'humanité. C'est en prenant vraiment l'humanité dans tout ce qu'elle est, en étant un vrai homme dans toutes ces choses, et du coup, il a fait des choix, effectivement, un homme n'est pas un homme et une femme en même temps, il est sexué. Et donc, du coup, en assumant cette particularité, finalement, c'est comme ça qu'il peut assumer toute l'humanité et finalement nous englober et nous procurer le salut. Donc ça, c'est intéressant parce que souvent, on a des objections en disant, bah, oui, mais enfin, le Christ, pourquoi il ne vient pas me sauver moi ? Enfin, sa souffrance, oui, elle est particulière. Mais en fait, c'est par ce don et par le fait de vraiment assumer le fait qu'il est un homme particulier. Voilà. Avec une volonté humaine, avec une âme humaine, etc. Et dans un instant T de l'histoire, etc.
C'est-à-dire qu'il attend simplement que c'est nous qu'on vient vers lui, qu'on vient frapper... Parce que quand les gens, j'entends les gens qui disent « Ouais, il n'a rien fait pour moi, pourquoi tu veux que je prie Dieu ? Il n'a rien fait pour moi. »
Mais il est à côté de toi, voilà, exactement. Si ça se trouve, tu ne l'as juste pas vu, quoi. Ouais. Ouais, tout à fait. Alors, il y a quand même deux, trois particularités sur son humanité. C'est qu'il n'a pas eu... donc, il n'était pas pécheur. Donc, il a été préservé du péché. Mais en fait, le péché, comme c'est plutôt une absence... Et en fait, c'est pas un trait qui nous constitue le péché. C'est plutôt le fait que c'est un manque de, c'est l'absence de, d'une absence de plénitude en fait quelque part. Donc c'est plutôt le Christ qui est plus plein que moi qui suis pécheur, parce qu'en fait finalement le péché c'est cette absence de relation, de lien avec Dieu. C'est cette sorte, on a coupé le lien. Et ouais, alors c'est pas tout à fait le cordon ombilical parce que ça c'est normal qu'on le coupe. Mais voilà, il y a quelque chose de, on est fait pour Dieu, et quand on casse cette chose là, bah finalement c'est une absence, c'est un manque, c'est une faille en fait. Donc on a créé un manque dans notre être. Donc c'est normal que le Christ, il n'est pas un manque d'un manque, bah, finalement, lui, il est très plein. Voilà. Donc c'est normal qu'il n'ait pas été pécheur. Ça aurait été vraiment, pour le coup, c'est même pas possible que s'il était vraiment Dieu, qu'il puisse être pécheur. Il n'a pas non plus la propension au mal, donc la concupiscence, donc il n'a pas les conséquences du péché originel. Et ça explique aussi pourquoi Marie est vierge et qu'elle est l'Immaculée Conception, ce qu'on vient de fêter là, la semaine dernière, le 8 décembre. Voilà, c'est cette idée de virginité et de préservation du péché originel qui fait qu'il y a cette propension au mal, cette inclinaison vers le mal que nous avons, que Jésus, lui, il n'a pas eu. Voilà.
Je voudrais te poser une question, c'est un peu délicat. Pourquoi il y a des gens qui disent qu'ils ne sont pas mariés ?
Bah parce qu'en fait, ce serait mettre Marie... Alors, c'est toute la question de la virginité Marie et de Marie... Le risque, enfin tous ceux qui disent ça, c'est ceux qui ont peur qu'on idolâtre Marie et qu'on adore Marie au lieu d'adorer Dieu. Seul Dieu est adorable. Mais en fait, le culte marial bien compris, au contraire, c'est Marie, elle est le chemin, elle est l'étoile, oui, elle est ce qui nous conduit, elle est d'une certaine perfection. Exactement. Voilà. Et donc c'est l'idée que de dire que Marie, on va s'arrêter à elle et que c'est elle qu'on va adorer. Non, Marie, elle ne fait que nous conduire au Christ. Comme le Christ, d'ailleurs, nous conduit au Père aussi. Donc, ce n'est pas un écran, c'est un passage. Voilà. Et donc c'est, je pense, une mauvaise compréhension de ce qui est Marie et qu'est-ce qu'on vénère en Marie. D'ailleurs, on ne dit pas, on adore pas Marie, on la vénère. Voilà, parce qu'elle a ce modèle, en fait, qu'elle peut nous... Qu'elle peut, et puis cette protection.
Oui, mais c'est pour ça qu'ils disent qu'on n'est pas vraiment mariale ou quoi que ce soit, alors qu'ils sont chrétiens catholiques comme nous, et qui disent on n'est pas vraiment mariale, moi je leur ai dit, ben, si vous n'êtes pas vraiment mariale, qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas des protestants alors.
Surtout que Jésus sur la croix a bien dit à Jean, voici ta mère et voici ton fils, hein, donc il nous l'a donné comme maman. Hein. Donc c'est lui-même qui nous dit.
Dans les évangiles,
ouais. Pas trop bah, c'est vraiment ça le passage, c'est vraiment cette sur la croix. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur la croix, ouais. Donc il n'y a pas cette propension au mal, et puis il n'est pas tout à fait né comme nous, puisqu'il est né d'une mère vierge, et puis par l'opération du Saint-Esprit. Donc il y a des choses qui sont différentes, mais ça montre qu'il y a une liberté, que finalement ce n'est pas des choses qui sont liées à notre être, à la nature humaine quelque part, c'est des choses qui sont un peu soit des manques, soit des choses particulières, enfin qui sont juste des contextuels. Donc voilà, donc lui il est vraiment dans cette idée de liberté, avec on rompt la chaîne qui attache le désir et la mort, donc c'est cette chose-là qui a été avec le péché originel. Et donc, quelque part, la virginité de Marie et son Immaculée Conception, c'est une rupture de ça, cette génération qui entraîne la corruption par ce lien entre le désir et la mort, ce qui est le péché originel, ce que ça introduit. Voilà. Donc, il y a cette idée qu'on casse cette conséquence-là pour repartir d'une humanité nouvelle, en fait, mais qui est l'humanité voulue par Dieu, initialement. Voilà. Et donc, s'il peut ensuite affronter les conséquences du péché, qu'il assume en pleine liberté, c'est à partir d'une position plus forte, parce qu'en fait, il est vraiment homme, quoi. Et donc, on peut parler d'un homme parfait. Et donc, ce n'est pas parce qu'il est un peu moins homme ou parce qu'il est Dieu, donc ça contrebalance le fait qu'il est humain. Non, c'est de cette position très forte d'un vrai homme, mais qui n'est pas entraîné par le péché, quoi. Et donc, du coup, qui a cette liberté-là de pouvoir se tourner vers Dieu. Et finalement, Jésus, c'est le premier à dire ce que saint Jean nous dit des enfants de Dieu par le baptême. Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et quelque part, finalement, alors qu'il est né effectivement de la chair, du sang, etc., mais il y a quelque chose de ce qui va au-delà de ça et qui est notre vocation humaine. Donc il y a vraiment une vocation particulière, il a été dans un temps précis, voilà. Et donc l'universel qui rejoint, le fait qu'il te rejoint toi et moi et qui nous sauve, c'est par cette ouverture sur tous les hommes, cette idée de tout embrasser et d'assumer vraiment notre humanité jusqu'au bout. Voilà. Donc il porte la condition de l'homme, qu'il a redonnée au Père pour restaurer ce lien. Et quelque part, c'est pour ça qu'on peut dire qu'il est le premier-né de toute créature et qu'il est finalement le prototype, parce qu'il... Si on va dans l'autre sens, on a été créé à son image. Donc, exactement. Quelque part, on remet les choses dans le bon ordre. Après, on va aborder le thème de la kénose du Verbe. Alors, le mot kénose veut dire l'anéantissement. C'est la
kénose.
Kénose, c'est un mot grec qui veut dire s'anéantir.
Ça s'écrit comment ?
K-E-N-O-S-E.
K-E-N-O-S-E.
C'est un mot grec et ça veut dire l'anéantissement. Et en fait, c'est dans l'hymne aux Philippiens. Tu sais, le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement les rangs qu'il a gagnés, mais il s'est anéanti, c'est ce mot-là, anéantir, devenir le néant, presque se vider d'eux.
Ouais.
Voilà. Donc c'est cette idée que quand, dans l'incarnation, finalement, le Verbe, quelque part, il n'a pas dit, bon, bah, pendant un moment, je ne suis plus le Verbe, je mets de côté ma divinité, puis je vais devenir un homme, puis après, je redeviendrai un Verbe. Non, pas du tout. Il s'anéantit, mais pas dans le sens où il se vide de sa divinité, mais il se vide pour faire de la place pour que l'humanité puisse avoir une vraie réalité. Parce que sinon, la divinité surplomberait trop. Et donc, quelque part, il a cette délicatesse de faire de la place, et c'est ce vide-là dont on parle, ce néant, enfin, quand on dit anéantir, c'est néant vide, pour que l'humanité puisse être vraiment... qu'il y ait une place pour cette humanité de Jésus, en Jésus. Voilà. Et donc, c'est vraiment dans l'incarnation qu'il y a cet abaissement, et de se dire, cet abaissement n'est pas un je nie ma divinité, je la mets sur en stand-by et puis on verra plus tard. Non, c'est il fait de la place pour qu'il y ait de l'homme et du Dieu en fait en lui. Voilà. Et donc dans saint Thomas d'Aquin, c'est pour ça qu'il parle de la perfection et du fait que Jésus a comme un homme, enfin, a dû croître. Donc il est né petit bébé, hein, voilà, il a appris à parler, il a appris à marcher, il a appris à prier comme disait sur les genoux de Marie, ce qui est, je trouve très très beau comme idée. Et donc il avait à la fois plusieurs niveaux de connaissance. Il y avait la vision béatifique, quelque chose qui voit, qui lui fait voir toutes choses dans le Père, béatifique. Tu sais, quand on parle d'un bienheureux, donc c'est béat, c'est être en, voilà, en Amazon, donc la vision béatifique, c'est-à-dire qu'en fait, il lui fait voir quand même toutes choses dans le Père, voilà. Mais ça n'envahit pas son savoir humain. Donc c'est, il a cette connexion, cette intimité, cette même sur la croix quand il dit Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? S'il lui parle, c'est qu'il est là, tu vois. Donc il y a quand même cette connexion. C'est juste que dans sa souffrance et dans sa, tu vois, dans le cette chose-là, il n'a pas la totalité. C'est la souffrance lui l'empêche de le vivre pleinement, ça. Mmh. Voilà, parce qu'elle le tire, elle le bride quelque part. Mais il a cette intimité avec cette intime connexion avec son père qui fait que voilà, ça il le perd pas. Donc il a toujours cette vision que le père est là à ses côtés.
Voilà. Il a dit deux choses hein, sur la foi. Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et Père, pardonne-les.
Bah, exactement. Donc il lui parle et du coup il est confit, tu vois. Donc il
veut en plus nous sauver. En
voilà,
fait.
Exactement. C'est encore plus. Il veut encore plus le Fils. Ouais.
Il essaie
Tout à fait. Et c'est pour ça que c'est un vrai don absolu, quoi. Donc il y a cette vision béatifique. Il y a une science infuse, comme les prophètes, c'est-à-dire qu'il avait, comme les prophètes, il a des l'esprit le enseigne un certain nombre de choses. C'est comme ça qu'il peut anticiper, peut-être par exemple avec la Samaritaine, tu vois, de lui dire des choses par anticipation ou de savoir ce qui va se passer, ou voilà, comme un prophète, voilà, parce qu'il était illuminé par l'esprit.
Quand il allait s'éloigner, quand il était au l'arbre des oliviers, je
oui,
sais pas quoi.
C'était aussi. Aussi, ouais, tout à fait. Voilà, alors ça, c'est Gethsémani, ça va être ta volonté, donc ouais. Ça, on va l'énumérer après. Et puis la science acquise, c'est-à-dire qu'il a appris des choses, voilà, donc il a été à l'école, voilà. Et notamment, il dit même qu'il est ignorant du jour du jugement. Certains lui disent, mais quand est-ce que ce sera le jour de la fin du monde ? Et il dit, seul le Père sait l'heure. Et c'est pas que le Père a décidé que le Fils, il savait pas tout, parce qu'il lui donne tout, mais c'est comme c'était pas utile à sa mission, et qu'il il fallait pas qu'il le révèle aux autres, parce que c'est justement, ça fait partie de retrouver la dépendance, et de s'accepter comme fils, c'est de pas savoir, et donc de se laisser aussi, voilà. Et donc, il nous vit ça, et il nous le montre, voilà. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là que le fait de ne pas savoir ou que le Père lui aurait interdit un certain nombre de choses. Voilà. Donc, on n'a pas le divin qui s'efface. On a vraiment une humanité qui est réelle, donc qui prend toute sa place, au contraire. Et Jésus est peut-être le plus beau des enfants des hommes, comme on dit. Voilà, parce qu'il y a une sorte de plénitude qui est là, parce qu'elle n'est pas pécheresse, donc elle n'a pas de manque, elle n'a pas d'infirmité. Et donc, on a comme une greffe... entre la divinité et l'humanité. Un peu, du coup, après, c'est pas. L'un n'existe pas sans l'autre. Enfin, c'est difficile de dire qu'est-ce qui est l'un et l'autre. Donc, finalement, ça crée une personne nouvelle, voilà, qui est l'homme Jésus. Et qui est homme-dieu Jésus, voilà. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la partie. Pour le salut, en fait, il fallait qu'il soit vraiment un homme et un dieu. Parce que c'est la seule manière. Qui pouvait à la fois vraiment s'offrir complètement et être de notre côté et donc emmener avec nous, nous offrir avec lui quelque part et qu'on puisse s'offrir dans lui, en lui. Alors, le troisième point qu'on va aborder, c'est plutôt le fait qu'il soit vrai fils, en fait. Donc, quelque part, quand on parle de la nature humaine, on pourrait se poser la question, c'est quoi ? On parle de nature, là j'ai dit, les natures divines et nature humaine. On n'est pas tout à fait sur le même registre. La nature humaine, finalement, c'est quoi ? On n'est pas sur dire la nature humaine, c'est fini, et puis la nature divine, c'est infini. La nature humaine, c'est ignorer des tas de choses, et la nature divine, c'est être omniscient, tout savoir, etc. Donc, on n'est pas sur un registre, tu vois, de juste opposition ou l'un par rapport à l'autre. C'est pas comme ça que ça se définit, en fait. Si on a... on n'est pas avec une... J'aime bien l'image, c'est une double nationalité, quoi. Comme si on avait... Jésus, il avait le passeport divin et le passeport humain. Pas du tout. On n'est pas dans ce registre-là parce qu'on ne parle pas de la même chose, en fait. Donc, ce que la nature humaine est faite, et ce qu'on peut, du coup, réfléchir avec Jésus, et ce qui peut nous aider à aussi grandir, c'est qu'en fait, notre nature humaine, elle est faite pour Dieu. Donc, être homme, ou femme, c'est être ouvert à la relation aux autres et à la relation à Dieu, éminemment. Voilà. Et donc, ce qu'on est en tant qu'homme, c'est qu'en fait, tant qu'on n'a pas trouvé Dieu, ben en fait, on est en manque de Dieu. Voilà, ça, c'est la nature humaine. C'est d'être, elle est faite pour Dieu, quoi. Voilà. Et donc, dans le Christ, cette nature humaine, elle est complètement en lien, enfin, elle est complètement connectée à sa nature divine, en fait, où il est le Fils. Voilà. Et son être en tant que Fils, où il se reçoit du Père... et qui redonne tout au Père, et bien quelque part dans l'homme, on a C'est là où on est à son image, quoi. Et donc, quelque part, il peut vraiment vivre la vocation humaine dans toute son envergure parce qu'il est le vrai fils, en fait. Il est le fils éternel du Père. Voilà. Et donc, on n'a pas de... C'est pas en contradiction, c'est pas en opposition. Au contraire, c'est même comme un... Dans sa nature humaine, en fait, il peut exercer complètement sa nature, enfin son être filial dans le d'être le fils éternel du Père. Voilà, parce que tout ce qu'on est en tant que nature humaine, bah, c'est exactement ça, quoi. Voilà. Et donc on n'est pas dans une relation finalement nature humaine nature divine. On est plutôt nature humaine et le fils éternel du Père. Voilà. Donc c'est en ça qu'on est en lien finalement. Et donc la nature humaine, elle est très proche de la personne du Fils, du Fils éternel, puisqu'on est filial, par vocation même, voilà, qui nous pousse vers le Père. Donc on a le Verbe incarné, qui reste donc complètement la deuxième personne de la Trinité, donc il reste le Fils, et éminemment le Fils. Et on voit que dans son humanité, en fait, il nous communique ça, cette façon d'être Fils, en fait. Il nous montre comment être Fils, vraiment, en fait. Et c'est pour ça qu'on peut dire qu'on est des frères en Jésus, et que finalement, on est des enfants adoptifs du Père, par le Christ, par son salut, mais aussi parce qu'on est à son image, on est embarqué là-dedans. Voilà, et donc cette réception filiale, bah, il l'a éminemment aussi en tant qu'homme, et il peut nous l'apprendre, comment se recevoir de Dieu, en fait.
C'est-à-dire, c'est comme, on peut dire, Jésus, c'est comme si c'était notre grand, 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 grand frère.
Exactement, voilà. Et c'est en ça qu'on l'imite, ouais. Et son Père, finalement, il nous donne son Père. Et voilà. C'est comme ça qu'on est adopté par son Père, en fait. Tout à fait. Bon. Ouais. Donc, cet thème de filial, en fait, d'être fils, bah, en fait, on l'a dans les deux registres, en fait. Un peu comme un organiste.
Et c'est ça
qui veut nous partager,
c'est ça qui veut nous donner,
oui. C'est pour ça qu'il dit, qui me voit, voit le Père, voilà, et je vous conduis, je suis le chemin, la vérité, la vie, vers le Père. Quoi. Ouais, tout à fait. Et donc, cette mélodie filiale, en fait, cette musique, bah, en fait, il la décline sur deux registres. Quoi. Quand il est dans la Trinité, en tant que Fils éternel, c'est sur un registre. Et quand il est en tant que Dieu-homme, bah, c'est un autre registre. Mais finalement, c'est la même mélodie. Quoi. C'est le même, la même façon d'être filial. Voilà. Et donc, on n'a pas une nature humaine qui est complètement... le divin qui viendrait supplanter ça. Et on est vraiment dans cette union et cette imbrication parce qu'en fait, on est très consonant. Donc, ça prend tout son sens. Voilà. Et quelque part, c'est même cette surabondance de la divinité qui fait qu'il peut être vraiment homme, en fait. Parce que du coup, il est vraiment fils. Voilà. Donc, seul le fils pouvait s'incarner. Donc, ça, c'est clair que... Par contre, ça veut dire... que c'est pas indépendant, ça c'est pas au hasard, ils ont fait Amstramgram, Piqué-Piqué-Collégram, oui. Entre le Père, le Fils et les Esprits Saints. Non, forcément, donc là aussi, il y a une vraie réalité, enfin, c'est ça a du sens. Voilà, c'est la personne du Fils, qui est la deuxième personne de la Trinité qui peut s'incarner. Voilà. Donc toute la Trinité est à l'œuvre dans le salut, parce que le Père envoie, le Fils s'incarne, et l'Esprit Saint-Tisse dans le sein de la Vierge Marie, et puis il est là pour la résurrection, etc. Donc on a bien cette toute la Trinité qui est à l'œuvre dans le salut, mais c'est le Fils qui la vit, qui l'incarne et qui nous l'apporte. Voilà, voilà. Exactement. Voilà, la communication. Alors, on parle souvent de la communication. Alors, c'est un grand mot, mais bon, peut-être pas trop creuser là-dessus. Mais c'est l'idée que quand on dit, tu vois, quand on dit Marie, Mère de Dieu, en fait, elle est la mère de l'homme, Dieu, Jésus-Christ. Oui. Voilà. Et du coup, on fait en analogie, du coup, on dit qu'elle est mère aussi de ça, puisque c'est une seule même personne, quelque part, elle est mère de la divinité. Et comme Jésus, c'est la totalité de la divinité, puisque chaque personne divine est la totalité de la divinité, c'est pour ça qu'on peut dire que Marie est mère de Dieu. Par contre, faut vraiment se manier avec précaution toutes ces choses-là, parce que très vite, on peut faire l'assimilation de tu vois, de pas garder la distance entre ce qu'est Dieu et ce qu'est l'homme. Donc, il faut toujours se méfier quand on dit « Dieu a souffert sur la croix ». C'est vrai, parce qu'on a toute la totalité de la divinité qui est dans l'homme Jésus, dans l'homme Dieu Jésus. Et donc, quelque part, on peut dire « Oui, Dieu a souffert sur la croix ». Mais tu vois, c'est un peu dangereux. Donc, faut être vigilant là-dessus pour pas trop non plus faire d'approximation et finalement réduire le mystère d'un Dieu qui vient jusque dans notre humanité et qui est quand même... Enfin, on est sur hors proportion, quoi. Et donc, il faut faire attention à ça. Mais c'est théologiquement juste parce que en tant qu'homme Dieu, Jésus, il est tout ça.
Il faut dire Dieu a souffert sur la croix pour nous.
Tout à fait, exactement. Bien sûr. Ah oui, non, c'est tout à fait vrai.
Comment dirais-je ? On va pas dire oui, il a souffert à cause de... Non, non, Dieu a souffert pour nous pécher.
Tout à fait. Alors, Gethsémani, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Donc ça, c'est les phrases de Jésus la veille de sa passion, quand il est dans le jardin des Oliviers, ce que tu disais tout à l'heure. Voilà, donc du coup, on se dit, du coup, c'est pas... Il n'a pas la volonté de Dieu. Enfin, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Pourquoi est-ce qu'il dit non pas comme je veux, mais comme tu veux? Comme s'il y avait une dissociation entre la volonté divine et sa volonté à lui. Donc en fait, les conciles nous ont vraiment montré, c'est qu'il y avait deux volontés en Jésus. Parce qu'il est pleinement homme et pleinement Dieu, il a une volonté humaine et une volonté divine. En Dieu, la volonté, il n'y en a qu'une seule. Parce que la Trinité, comme il n'y a qu'une seule de la substance même de Dieu, il n'y a qu'une seule essence. Et donc en Dieu, il n'y a qu'une seule volonté, c'est la volonté divine. Voilà. Et donc quand il y a la volonté du salut, par exemple, ou d'envoyer, tout le monde est à l'œuvre parce qu'en fait, c'est la volonté divine qui passe. Voilà. En l'homme, il y a aussi une volonté. Et on a chacun une volonté. En tant qu'individu humain, il a une volonté. Donc on a bien les deux volontés en lui. Alors, il n'est pas non plus schizophrène. Hein, donc voilà. Et donc dans cette phrase-là, il y a toute la... Justement, la manière d'être homme-Dieu pour Jésus, c'est-à-dire qu'il ne nie pas son humanité, il ne nie pas que, et il assume que c'est pas facile d'aller souffrir et de donner sa vie. Ça va pas être facile, quoi. C'est pas facile parce qu'il est Dieu et donc voilà. Non, il va vraiment souffrir. Donc c'est une épreuve, quoi. Voilà. Donc il ne nie pas cette épreuve et donc c'est normal qu'il en ait peur ou qu'il y ait une forme de si je pouvais éviter. On n'est pas fait pour souffrir et pour mourir. Donc, c'est normal qu'il y ait cet élan-là. Et en même temps, on a la complète obéissance et la complète fils. Enfin, c'est le vrai fils de s'inscrire dans la volonté de Dieu. Et donc, non pas comme je veux, mais comme tu veux, qui est presque comme... Non pas, je suis en train de négocier. Voilà, c'est pas ça. C'est au contraire, c'est pas facile en tant qu'homme. C'est un vrai acte de volonté et ça va être une vraie... Enfin, c'est un vrai don, quoi. Enfin, c'est pas, il n'a pas souffert en peinture, quoi. Mais je veux l'inscrire dans la volonté divine. Parce que c'est ce que je veux et c'est ce que nous voulons, en fait. Voilà.
C'est pour cette raison qu'il est porté sous l'olivier. C'est là qu'il demande.
Oui, voilà, par trois fois. Et donc, c'est pas qu'il y a une dissociation, qu'il y a un conflit, ou qu'il est en train de devenir en train de dire ouais, plutôt ci, plutôt ça, etc. Non, c'est qu'il rentre dans cette filiation où il obéit et il fait même rentrer sa volonté dans celle de la volonté divine. Donc, il va jusque-là. Voilà. Et on a une explication en fait de ça, c'est que donc on est dans un cas un peu extrême, hein, c'est qu'il est en train de visualiser qu'il va mourir demain et que ça va pas être une mort facile quoi en plus, hein, parce que c'est assez horrible. Et donc il y a cette phrase qu'on peut prendre qui est plus antérieure, mais qui est dans Jean aussi. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Et là, on a exactement ça, c'est-à-dire pour être vraiment moi et être filiale, je m'inscris dans la volonté du Père. Et donc, je fais cette très belle prière, non pas ma volonté, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Voilà. Et c'est plus une prière qui s'inscrit dans que je suis en train de dire non, mais quand même, c'est pas drôle, quoi. Enfin, j'ai pas envie. Voilà, c'est pas ça. C'est une prière d'obéissance aussi, jusque-là, dans la volonté. Voilà. Et donc, il y a une sorte d'harmonie et cette obéissance, elle va jusque-là. Voilà. Jusqu'à ce que sa volonté humaine veuille vraiment ce que veut la volonté divine. Voilà. Donc, c'est pas je le fais, ok ? C'est je le veux vraiment, de par ma volonté humaine aussi. Voilà. Donc il va jusqu'au bout de ça. Donc il y a en Jésus, il y a deux volontés. Il y a un vouloir naturel, il y a des activités naturelles. Voilà. Mais il y a toujours cette idée de sans division, sans changement, sans partage et sans confusion. Et donc il y a ce dialogue qui s'inscrit, qui n'est pas un vrai dialogue, mais qui est cette obéissance. Et ça s'inscrit dans la volonté divine. Voilà. Il ne résiste pas, il ne s'oppose pas du tout. C'est plutôt qu'il s'y soumet et il ne s'y soumet pas. De façon obligée, quoi, parce qu'il n'y a pas le choix. Non, il s'y soumet justement dans tout son amour filial, en fait. Et dans tout son amour pour nous, puisque finalement, c'est, comme tu disais, c'est salut pour nous.
Mais c'est pas défendu, rien du tout. Hein.
Non, du tout. Voilà. Donc c'est vraiment cet acte de volonté. Donc on l'a dans cette très belle prière à Gethsémani, mais on l'a le lendemain en acte, effectivement, où il ne se défend pas et il laisse faire. Voilà. Et c'est un vrai don, c'est pas juste parce qu'il aurait pu se débrouiller pour échapper, quoi. Voilà, et donc voilà ce que je voulais dire sur le sujet, qui mériterait d'ample, voilà. Et je voulais conclure sur quelque chose, c'est-à-dire qu'on a vraiment cette idée que la perfection divine, en fait, elle n'a pas annihilé son humanité, elle l'a au contraire quelque part fait rayonner, elle a exalté l'humanité en fait, parce que c'est le vrai homme. Et c'est finalement ce pourquoi nous, on essaye d'imiter le Christ et d'être un membre de son corps, parce que c'est comme ça qu'on est vraiment un homme et une femme. Alors, particulier, hein, tu es différente et moi je suis différente, mais on a cette exaltation de notre vocation parce qu'on est fait pour Dieu et qu'on est fait pour être enfant de Dieu. Voilà. Donc cette perfection divine, elle a traversé l'humanité du Christ pour l'exalter finalement et pour être le plus parfait des hommes et pour nous conduire au Père et nous embarquer avec dans l'histoire. Voilà. Et donc le Christ nous montre bien cette vraie volonté, cette véritable liberté, pardon, qui nous donne par son offrande sur la croix, par sa résurrection, puis dans le baptême finalement, de restaurer un peu notre vouloir. Et on dit que voilà, on est sauvé du péché et du péché originel dans le baptême. On est un peu remis à blanc, quoi. C'est le symbole du vêtement blanc, et qui nous restaure dans cette liberté de pouvoir nous offrir au Père et de pouvoir lutter contre le mal. Et en fait, je trouve que je voulais terminer sur l'adoration, ce qu'on vient de faire là, parce que finalement, parce que le Christ est devenu un homme-dieu, en fait, on peut l'adorer avec nos yeux, et donc quelque part que notre humanité soit aussi en adoration. Alors dans l'Eucharistie, il est certes voilé et on ne le voit pas encore vraiment, mais on le verra de nos yeux. Voilà, cette idée de voir Dieu, parce qu'il a assumé cette humanité, et donc ce qui, dans notre corps, qui est la manière de rentrer en contact et en relation avec les autres, parce que c'est par notre corps qu'on rentre en relation, que ce soit la parole, que ce soit le toucher, que ce soit la vue, que ce soit tout ça. Et bien en fait, parce que Jésus s'est incarné, et parce qu'il a voulu être cet homme-dieu, et bien en fait, on peut... entrer en relation avec Dieu, non pas juste spirituellement et intellectuellement, mais tangiblement, par nos sens. Et c'est éminemment le sens de l'adoration eucharistique. Voilà. Et donc, c'est un magnifique cadeau qu'il nous fait, parce qu'on peut aller jusque-là. Voilà.
Il nous l'offre.
Ouais. Et parce qu'il est homme-dieu, on peut le rejoindre, sa divinité, dans notre humanité, en vivant pleinement notre humanité. C'est-à-dire avec nos sens, avec notre vue, voilà, voir Dieu.
Parce que moi, je dis, c'est important, hein, depuis que je suis devenue chrétienne,